Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Est-ce que l'histoire serait la même si c'était deux filles? Dans la parabole dimanche dernier des ouvriers de la dernière heure, est-ce que l'histoire aurait été la même si les ouvriers avaient été des ouvrières? Est-ce que vous pensez que dans un cas ou dans l'autre, suivant qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de garçons ou de filles, les réactions auraient été ou seraient différentes? Au lendemain du 15 août, j'ai proposé une nouvelle série de mystères du rosaire, les mystères miséricordieux. Et sur les 5 scènes de l'évangile que j'avais retenues, une seule concernait une femme, qu'on appelle la syrophénicienne, parce que c'était l'évangile du jour, et elle devait insister fortement pour se faire entendre de Jésus. La place des femmes dans l'évangile est un sujet plus important que leur place dans l'Église. Et plus largement, dans la vie, dans la société, la question est de savoir si c'est en tant que femmes qu'elles sont ou qu'elles peuvent être maltraitées en raison de leur sexe, ou s'il s'agit d'abus qui sont par nature aveugles, qui ne tiennent pas compte des personnes et qui frappent les hommes autant que les femmes. Dans le cas atroce de violence conjugale, l'existence est la partie non négligeable d'hommes battus. Montre que ce n'est pas en tant que femme ou en tant qu'homme que l'un des deux est frappé, mais parce que tous les êtres humains ont en eux cette part de violence animale. Quels sont les personnages de l'Évangile, y compris des paraboles, des personnages qui sont des hommes, et dont vous diriez, non, une femme n'aurait pas fait ça? Posez-vous la question d'un certain nombre de ces scènes de l'Évangile, et là où vous diriez, non, une femme n'aurait pas fait ça. Oui, il y a davantage d'hommes mâles que de femmes dans l'Évangile, en raison évidemment du contexte social, culturel, historique, mais aussi parce que l'enseignement du Christ, l'enseignement moral, porte davantage sur l'argent que sur le sexe. Et le renvoi, dans le passage de ce jour, aux publicains et aux prostituées, est très significatif, qui renvoie à deux types de dévoiement de l'argent, le type parmi tant d'autres. Mais ça concerne autant les femmes que les hommes. Je me suis demandé si j'avais à faire une autre série de mystères du rosaire, une série du chapelet, sur les mystères de la femme, les mystères féminins. Quelles seraient les 5 femmes de l'Évangile que je choisirais, mis à part la Vierge Marie que Dieu lui-même a mise à part? La première serait Élisabeth, la femme de Zacharie, au début de l'évangile de Saint-Luc. Elle fait le lien avec les saintes femmes de l'Ancien Testament, et je vous invite à comparer d'ailleurs avec la mère de Samson dans le livre des Juges, chapitre 13 du livre des Juges, dont le mari Manoa ressemble beaucoup à Zacharie. Pas très brillant, quand il voit que c'est l'ange du Seigneur qui leur parle, il se met à gémir, il tombe par terre, il dit « Ah, on est perdu, on va mourir !» Heureusement que sa femme est là qui dit « Oh, oh, oh !» Si nous devions mourir, nous serions déjà morts. Voyez comment Élisabeth, à la naissance de Jean-Baptiste, s'oppose à tout le village. Non, il s'appellera Jean. Ils voulaient tous l'appeler Zacharie comme son père. Non, il s'appellera Jean. Cette femme, quelle femme? Celle qu'on appelait la stérile, qui était ostracisée, qu'on montrait du doigt. Quelle force! La deuxième femme serait la Samaritaine que Jésus rencontre au bord du puits de Jacob, avec toute la symbolique du puits dans l'Ancien Testament, le symbole de la vie, de la profondeur. Une femme étonnante d'insolence, façon dont elle répond à Jésus. Avec quoi vas-tu puiser de l'eau? Comment vas-tu faire? Et on comprend pourquoi, à un certain moment de l'évangile, les auditeurs de Jésus le traitent à un moment de samaritain, ce qui est pour une injure. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain, que tu es un démon ? Ben, Jésus aurait pu les prévenir. Les samaritains vous précéderont dans le royaume de Dieu. La troisième femme de l'évangile serait Marie, sœur de Marthe, dont l'onction à Béthanie est une des plus belles scènes de l'évangile. La scène a été reprise, dédoublée ou transposée par Saint Luc à un repas chez un pharisien nommé Simon, où une pécheresse vient baigner de ses pleurs et de parfums les pieds de Jésus. Et le pharisien Simon est indigné. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme, une pécheresse. Et qu'est-ce que ça veut dire une pécheresse à l'époque ? C'est quelqu'un qui ne respecte pas le sabbat, qui ne respecte pas la loi. C'est une femme qui ne va pas à la messe. C'est ça une pécheresse publique. Il ne faut pas imaginer des histoires de coucherie systématiquement. C'est quelqu'un qui ne respecte... Un pécheur public ne respecte pas la loi, n'a pas de pratique religieuse. Et comparez cette scène du chapitre 7 de Saint-Luc avec la parabole de ce dimanche. Le fils qui dit oui et qui n'y va pas, c'est le pharisien. C'est le pharisien qui respecte la loi, qui respecte le culte, qui respecte toutes les prescriptions et qui ne va pas aux autres. Tandis que la femme, la pécheresse, elle dit non. Elle a dit non au culte, non à la loi, non à la pratique religieuse. Mais elle se convertit en découvrant l'humanité de Jésus. La quatrième femme serait... une femme qu'on appelle la femme hémorroïs, atteinte d'un flux de sang, dont l'évangéliste Saint-Marc dit assez plaisamment qu'elle a surtout souffert des médecins, qu'elle a dépensé tout son argent en pure perte sans rien gagner en santé. Sa guérison est enchâssée très mystérieusement par les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, dans un récit de résurrection de la fille d'un chef de synagogue. Et cette femme s'approche en cachette discrètement, avec crainte de Jésus, simplement pour toucher la frange de son manteau. Et Jésus, se retournant la voix, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta vie intérieure t'a sauvée. » Et pour nombre de mystiques, dans toute l'histoire, justement, de l'Église, la femme, c'est le symbole de la vie intérieure. La cinquième femme serait la femme adultère que les scribes et les pharisiens amènent de façon honteuse, méchante, plaçant au milieu, devant Jésus, au milieu de tous. Maître, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu ? Réponse sublime de Jésus. Que celui d'entre vous qui est sans péché. C'est pas très différent de ce qu'on entend dans l'évangile aujourd'hui, que de dire aux grands prêtres que les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume de Dieu. Que celui d'entre vous qui est sans péché. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'évangile, mais ces cinq-là. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la Samaritaine, Marie à Béthanie, la femme hémorroïs et la femme adultère sont de magnifiques exemples de liberté. De liberté ou de libération. Aucune, en tout cas, n'est une figure de soumission. Aucune. Et si moi, homme, mâle, je me reconnais en chacune d'elles, n'est-ce pas pour ce qu'elles nous disent de notre relation à Dieu, de notre rencontre du Christ, de notre vie dans l'Esprit ? Elles nous montrent qu'il faut parfois, comme le premier fils de la parabole, s'opposer à un certain nombre de conventions, de contraintes extérieures, d'obligations qu'on ne s'est pas appropriées, pour pouvoir se convertir, pour découvrir sa liberté intérieure. C'est le même mystère que celui de la femme et celui de la liberté. Pour le dire autrement, partout où des femmes sont maltraitées, c'est notre liberté à tous qui est étouffée, y compris dans l'Église.